Gaston Boissier, Les femmes à Rome, leur éducation et leur rôle dans la société romaine. Cicéron reproche à la constitution romaine d'avoir négligé l'instruction publique. Ce reproche est vrai, surtout pour l'éducation des femmes. Nous ne voyons pas que l'État s'en soit jamais sérieusement occupé, et les particuliers sur lesquels il se décharge de ce devoir ne paraissent pas non plus s'être donné beaucoup de mal pour le remplir. Il nous reste à ce sujet des renseignements si courts et si vagues qu'une des choses de l'Antiquité que nous savons le moins et que nous voudrions le mieux connaître, c'est comment à Rome on élevait une jeune fille. Il est hors de doute qu'on n'a pas dû les élever toujours de la même façon. Ce n'est que dans les romans de Mademoiselle de Scudéry que les contemporains de Brutus ressemblent aux grandes dames de la cour d'Auguste. Il est probable que Clélie n'a jamais connu la philosophie de Pythagore et qu'elle ne jouait pas à des jeux d'esprit avec ses compagnes. Mais il ne faudrait pas non plus aller trop loin et nous représenter les Romaines de ce temps tout à fait comme des barbares. Ce sont les moralistes de la République et de l'Empire qui ont pris plaisir à les dépeindre ainsi pour faire des leçons à leur siècle. Quand ils veulent reprocher aux femmes de leur époque leurs dépenses folles et leur luxe ruineux, il ne manquera pas d'exagérer la simplicité et la rudesse de leurs devancières. Varron les montre qui filent la laine en ayant l'œil sur la soupe pour ne pas la laisser brûler, et ne connaissent d'autre divertissement que d'aller se promener deux ou trois fois par an en charrette avec leur mari. Ce sont là des tableaux dans lesquels il entre beaucoup de fantaisie. Rome était entourée de nations civilisées, et ses premières années, elle en a subi l'influence. Pouvait-elle se trouver mêlée aux Étrusques et aux Grecs, sans prendre dans ses relations quelque goût pour le luxe, quelque connaissance des arts, quelque souci de l'élégance. Si haut qu'on remonte dans son histoire, il est difficile d'arriver à la barbarie. Les Tarquins font venir des pays voisins des sculpteurs et des architectes et bâtissent des monuments magnifiques. Dans le plus ancien tombeau des Scipions, l'inscription est entourée d'ornements gracieux qui trahissent la main d'un grec. C'était pourtant l'époque où Curius mangeait ses légumes dans une écuelle de bois. De tout temps, les Romaines ont connu et ont aimé ces beaux bijoux d'or, ces bracelets et ces colliers délicats, ces miroirs d'acier, ces cassettes merveilleusement travaillées qu'on retrouve en si grande quantité dans les tombes de l'Étrurie. L'énumération de tous les artistes qu'elles employaient alors pour leur toilette remplit plusieurs vers de Plaute et, un jour, du temps du vieux Caton, elles firent une émeute pour qu'on leur rendît le droit de porter des anneaux d'or et des robes de pourpre et qu'on leur permît de se promener en voiture quand elles le trouveraient bon. Il y a donc chez elles comme une tradition d'élégance et de luxe qu'on peut suivre à travers toute l'histoire romaine, depuis les rois jusqu'aux empereurs. Il serait difficile d'admettre que dans une société où l'on prenait tant de peine pour leur parure, on n'ait pas eu quelques soucis de leur éducation. Seulement, l'éducation qu'on leur donnait devait dépendre des qualités qu'on exigeait d'elles et du rôle qu'on leur assignait dans la vie. L'idée que les anciens Romains se faisaient de la mère de famille était grave. La matrone devait conduire la maison et partager avec le mari le gouvernement domestique. Ses fonctions demandaient un esprit sérieux, un caractère résolu. C'était aussi les mérites qu'on prisait le plus chez les femmes. Ce sont ceux que Plaute leur attribue dans toutes ses pièces. La douceur, la grâce, la tendresse semblent réservées chez lui aux courtisanes. Les jeunes filles ou les femmes de naissance libre qu'il met sur la scène ne connaissent pas les effusions des emportements de la passion. Elles ne sont jamais timides ni rêveuses. Elles ont un air décidé, elles parlent d'un ton ferme et viril. Dans la pièce intitulée « Les Perses », un parasite éhonté veut mêler sa fille à une basse intrigue qui doit lui procurer de bons dîners pour le reste de ses jours. Elle résiste avec une fermeté froide. Pour échapper à ce danger que court son honneur, elle n'a pas recours aux gémissements et aux larmes. Elle est grave, sentencieuse, elle discute et raisonne. « Nous sommes bien pauvres, » dit-elle à son père, « mais plutôt que de faire ce que tu veux, il vaut mieux vivre dans la misère. La pauvreté devient plus lourde à porter si l'on y joint l'infamie. » Quand Alcmène se voit outragée par Amphitryon, elle n'essaye pas de le toucher par ses pleurs. Elle veut le convaincre par ses raisonnements. Elle se garde bien de supplier. Elle en appelle à sa conscience et à Junon, la mère de famille. Elle lui offre de prouver sa vertu par témoin. Mais aussitôt qu'elle s'aperçoit qu'elle ne parvient pas à le détromper, elle prend sa résolution sans faiblesse et demande le divorce. « Reprends ton bien, lui dit-elle, et rends-moi ce qui m'appartient. » Elle ne veut pas rester un moment de plus avec lui. Elle le prie de lui donner des gens pour l'accompagner chez elle, et comme il paraît hésiter à le faire, elle se décide à s'en aller, escortée de sa seule pudeur. Telle était évidemment l'idée qu'on se faisait alors des femmes, et les qualités que Plaute leur accorde étaient celles qu'on tenait le plus à retrouver dans une matrone accomplie. L'éducation que leur donnait était tout à fait propre à les développer chez elles. Dans les maisons riches, les jeunes filles étaient élevées, comme leurs frères, par des esclaves lettrés. Elles recevaient les mêmes leçons, on les faisait étudier dans les mêmes livres, elles écoutaient le grammairien, lire et commenter les grands poèmes de la Grèce et de Rome, et prenaient de leur jeunesse pour Ménandre, pour Terence, un goût qu'elles gardaient d'ordinaire pendant toute leur vie. Les plébéiennes étaient envoyées aux écoles publiques, sur le forum auprès des boutiques vieilles. Ces écoles étaient fréquentées aussi par les garçons, et comme elle arrive encore en Amérique, on y élevait les deux sexes ensemble. Il résultait souvent de cette éducation commune qu'ils avaient non seulement les mêmes connaissances, mais des qualités semblables. On n'enseignait pas plus aux filles qu'aux garçons les arts qui ne semblent pas compatibles avec la gravité des mœurs romaines. On répugnait par exemple à leur apprendre la danse. « Il n'y a presque personne, disait Cicéron, qui se permette de danser tant qu'il est à jeun. » On redoutait aussi pour elles la musique et le chant. Sans doute, dans quelques circonstances graves, après de grands malheurs ou des victoires inespérées, on avait vu des jeunes filles, au milieu des cérémonies publiques, chanter des hymnes aux dieux pour désarmer leur colère ou les remercier de leurs bienfaits. Mais ces occasions étaient rares. D'ordinaire, le chant n'était guère mieux vu que la danse, et Scipio Émilien, un ami de la Grèce, pourtant, les condamnait sévèrement l'un et l'autre, lorsque, pendant sa censure, il fit fermer les écoles qui s'étaient furtivement ouvertes à Rome pour les enseigner. On corrompt notre jeunesse, disait-il au peuple, en lui faisant connaître des arts malhonnêtes. On lui apprend à chanter, ce que nos aïeux regardaient comme honteux pour un homme libre. Des jeunes filles, des jeunes gens de bonne maison s'en vont dans les écoles de danse parmi les baladins. Vous me l'avez bien dit, mais je ne pouvais pas croire qu'on pût donner une éducation pareille à ses enfants quand on portait un nom honorable. On m'a conduit dans une de ces écoles, et par Hercule, j'y ai vu plus de 500 garçons ou filles. Dans cette foule, il y avait, j'en rougis pour Rome, le fils d'un candidat aux honneurs publics, un enfant de 12 ans, portant encore la bulle à son cou, qui dansait avec des crotales une danse tellement impudique qu'un esclave débauché ne se la permettrait pas sans rougir. La danse était plus rigoureusement interdite que le chant, mais la musique même était suspecte. C'est un art qui s'adresse moins à la raison qu'à la sensibilité, qui fait plus rêver qu'agir. Et l'on voulait qu'une femme fût prête à l'action comme un homme. Cette éducation n'a pas peu contribué sans doute à donner aux Romaines des premiers siècles leur caractère énergique et viril. Peut-être trouvera-t-on qu'elles ont poussé ce caractère un peu trop loin. On aime aujourd'hui chez la jeune fille un air plus timide, quelque chose de plus tendre et de plus résolu. La faiblesse paraît un de ses plus grands attraits. Les Romains pensaient que la force vaut mieux. Quand l'homme élève la femme pour lui, il est naturel qu'il cherche à lui donner surtout la douceur et la grâce. Il n'y a rien qui la rende plus agréable à ceux qui doivent vivre près d'elle. Mais s'il s'agit d'élever les femmes pour elles-mêmes et dans leur intérêt, si l'on veut qu'elles soient capables de remplir un rôle actif dans les luttes de la vie, il faut qu'elles acquièrent d'abord les connaissances qui leur permettent d'y prendre part sans trop d'infériorité. Si l'on a pris soin de former leur esprit et de tremper leur âme d'une certaine façon, elles y seront trop facilement vaincues. On a été quelquefois choqué d'entendre dire à La Bruyère qu'on ne peut rien mettre au-dessus d'une belle femme qui aurait les mérites d'un honnête homme. Cette maxime, qui pouvait surprendre au XVIIe siècle, devient plus vraie tous les jours. Dans une société comme la nôtre, où les relations du monde ont un peu perdu de leur importance, où l'on vit plus retiré, les qualités qui brillent surtout hors de la maison et dont on se met principalement en dépense avec les étrangers ont moins de prix. Au contraire, on s'attache de plus en plus à celles qui sont de mise chez soi dans la pratique de la vie commune, la sûreté du commerce, la solidité de la raison, la justesse de l'esprit, la fermeté du caractère. Il ne faut pas être un grand prophète pour prévoir que la situation des deux sexes devenant de plus en plus semblable, l'éducation des femmes se rapprochera tous les jours de celle des hommes, et qu'on reviendra dans une certaine mesure à l'idéal que les Romains se faisaient de la mère de famille. Un moment arriva pourtant où cet idéal, s'il n'avait été un peu tempéré, pouvait présenter quelques périls. Quand les mœurs devinrent plus élégantes et les esprits plus cultivés, quand on prit l'habitude de se réunir davantage et de moins rester dans sa famille, on dut être tenté de demander aux femmes d'autres qualités que celles dont on s'était jusque-là contenté. En vivant d'une manière nouvelle, on éprouvait des besoins nouveaux. Il était à craindre que, pour les satisfaire, on eût recours au système des Grecs. En Grèce, comme à Rome, la femme était chargée de diriger le ménage et de mener la maison. Mais la maison et le ménage n'y avaient pas la même importance qu'à Rome. Le Grec vivait chez lui le moins possible. Il n'y cherchait que le nécessaire, le vivre et le couvert, comme dit La Fontaine. Quant à ce superflu qui fait tout l'agrément de l'existence, ils se le procuraient ailleurs. C'était chez eux la coutume de faire ouvertement deux parts de la vie. Celle qu'on passait dans la maison était la plus ennuyeuse et la plus courte. On ne s'y plaisait guère, on n'y trouvait personne avec qui l'on aimât à causer. Y a-t-il quelqu'un, disait Socrate à l'un de ses amis, à qui tu parles moins qu'à ta femme? Lorsqu'on voulait se divertir, donner quelque distraction à son esprit ou quelque aliment à son âme, on sortait de chez soi, on cherchait au dehors ce que la vie intérieure ne pouvait pas donner. C'est ainsi que la courtisane était devenue le complément naturel du mariage. Ce partage ne choquait personne, et Démosthène disait le plus simplement du monde: nous avons des amis pour le plaisir, des épouses pour nous donner des enfants et conduire la maison. Les courtisanes ne manquaient certes pas à Rome. Dès la fin de la Seconde Guerre punique, Plaute prétend qu'il y en avait plus que de mouches lorsqu'il fait très chaud. Mais il est douteux qu'elles fussent semblables à cette Aspasie qui charmait Périclès, ou à Léontium qui était capable de composer des ouvrages de philosophie. Elles offraient beaucoup moins de séduction aux esprits délicats, et quoique la morale publique fût très indulgente pour elles, et qu'on ne trouva rien à redire à ceux qui, au lieu de mettre le pied dans les sentiers interdits, se contentent de marcher dans le grand chemin, la société qui les fréquentait n'était ni aussi nombreuse, ni surtout aussi choisie que dans les villes de la Grèce. À ce moment, le Romain n'éprouvait pire encore que le Grec le besoin de se distraire hors de chez lui. Quand ses affaires étaient terminées, il rentrait dans sa maison et y restait volontiers. Il était heureux de se reposer dans sa famille des fatigues de la journée. Moins poète, moins artiste, moins curieux que l'Athénien, il se passait plus facilement des conversations sérieuses ou légères, des fêtes élégantes, des réunions distinguées auxquelles préside une femme d'esprit. Le goût devait pourtant aussi lui en venir, à mesure qu'il connaissait mieux la Grèce et qu'il se familiarisait avec sa littérature et ses arts. Vers le 7e siècle, les mœurs subirent à Rome de graves atteintes. On commençait à trouver moins de plaisir dans la vie de famille, et il arriva, par une coïncidence fâcheuse, qu'à mesure que l'attrait qui retenait les Romains chez eux était moindre, celui qui les attirait au dehors devenait de plus puissant. Pour l'esprit et la grâce, les courtisanes de Rome finirent par rivaliser avec celles de Corinthe ou d'Athènes. On mettait un soin extrême à les bien élever. Celles qu'on destinait d'avance au plaisir des jeunes gens de grande maison étaient ornées de tous les talents nécessaires pour les charmer et les retenir. Ovide énumère tout ce qu'il faut leur apprendre. C'est une éducation complète. Est-il nécessaire de dire qu'elles doivent savoir danser? Il faut bien qu'elles puissent à la fin d'un repas agiter les bras en cadence quand les convives le désirent. Elles doivent être musiciennes aussi, tenir avec grâce l'archet de la main droite et la cithare de la gauche. Il faut qu'elle chante surtout. C'est une douce chose que le chant. Beaucoup de femmes qui manquaient de beauté ont séduit par la douceur de leur voix. Qu'elles répètent tantôt les chansons qu'on entend dans les théâtres et tantôt les airs de l'Égypte. Il n'est pas inutile non plus qu'elles sachent bien écrire. Que de fois n'est-il pas arrivé que la conquête encore douteuse d'un amant a été achevée par un biais spirituel, et qu'au contraire le méchant style d'une femme a détruit l'effet qu'avait produit sa beauté. Elles doivent savoir les vers des poètes qui ont célébré l'amour, surtout ceux de Callimaque et de Sappho, et ceux des Romains qui les ont imités. Il est question dans Horace de grandes écoles où de jeunes et belles affranchies apprenaient à chanter les poésies de Catulle sous la direction des plus grands musiciens de Rome. Ces talents qu'elles se donnaient avec tant de peine ne leur furent pas sans profit. Quelques-unes d'entre elles arrivèrent à d'aussi brillantes que les courtisanes de la Grèce. Telle fut la comédienne Citéris, la maîtresse du riche Trapellus et d'Antoine, celle dont l'infidélité causa tant de douleur à Gallus, que son ami Virgile crut devoir, dans une églogue, convoquer tous les dieux de l'Olympe pour venir le consoler. Cicéron raconte qu'il dîna un jour avec elle, en compagnie du sage Atticus et d'autres gens d'importance, et il s'excuse gaiement de l'avoir fait en rappelant que le philosophe Aristippe ne rougissait pas d'être l'amant de Laïs. L'exemple des Grecs commençait donc à gagner les Romains. On s'habituait, à ce qu'il semble, à ce partage de la vie qui existait chez eux entre la courtisane et l'épouse légitime. Et Antoine avait osé traverser toute l'Italie suivi de deux litières dont l'une portait sa femme et l'autre Citéris. Les Romains s'arrêtèrent pourtant sur cette pente. Malgré de grands dérèglements, ils ne sont jamais arrivés tout à fait à cette facilité des mœurs grecques qui met l'épouse et la courtisane à peu près sur la même ligne. Ce qui ne fut pas inutile à les préserver de cet excès, c'est l'habitude que prirent alors les femmes de ne pas s'occuper seulement des devoirs sérieux de la vie, et de rechercher aussi les agréments plus futiles que l'opinion semblait leur interdire. En remplaçant leur raideur ancienne par des manières plus aisées, en se permettant d'apprendre la danse et le chant, en devenant plus sensibles aux jouissances des lettres et des arts, en osant sortir de leur intérieur sévère pour se mêler plus souvent aux réunions du monde, elles désarment les courtisanes de leur plus puissante séduction. Le Romain, qui pouvait trouver réunis chez sa femme des qualités que le Grec divisait, était moins tenté de les chercher ailleurs. De tout temps, il y avait eu des matrones qui avaient voulu s'affranchir de cette réserve que les préjugés leur imposaient. On avait vu même aux époques où les mœurs étaient les plus sévères, qui essayaient de se donner un peu plus de liberté et qui osaient acquérir des talents suspects. Vers le IVe siècle, la Vestale Postumia fut accusée d'avoir manqué à ses devoirs. La seule raison qu'on avait de le croire, c'est qu'elle se mettait trop bien et qu'on lui trouvait un esprit trop enjoué. Ce goût pour la parure et pour la gaieté la faisait soupçonner de tous les crimes. Elle fut pourtant acquittée, mais le grand pontife, en la rendant à ses fonctions, eut soin de lui recommander de mener désormais une vie plus grave et d'accomplir son ministère plutôt comme une sainte femme que comme une personne d'esprit. On était devenu bien moins rigoureux vers la fin de la République. Le nombre des femmes mieux élevées, plus instruites, était alors beaucoup plus considérable. Plutarque nous dit de Cornélie, qui avait épousé Pompée, qu'elle était lettrée, jouait de la lyre, connaissait la géométrie et pouvait écouter avec fruit des conversations philosophiques. Il ajoute qu'elle avait su se préserver des défauts que n'évitent pas toujours les jeunes femmes qui sont versées dans ces études, l'exagération et le pédantisme. Il est probable que Cornélie dissimulait ses talents pour ne pas soulever contre elle les préjugés anciens, et la plupart des femmes qui se respectaient faisaient comme elle. D'autres se moquaient ouvertement de l'opinion et vivaient sans se gêner à la façon des femmes légères de la Grèce. Telle était cette Claudia qui osait s'arrêter les jeunes gens dans la rue et les invitait à ses fêtes. Nous savons qu'elle aimait beaucoup les poètes de talent et qu'elle faisait elle-même des vers à l'occasion. Telle était aussi cette Sempronia qui avait tant d'esprit, qui connaissait les lettres grecques et latines, et dont Salluste nous dit qu'elle dansait mieux qu'il ne convenait à une honnête femme. C'était du reste le moindre de ses soucis d'être honnête ou même de le paraître. Il n'y avait rien qui lui fût moins cher que la réputation et l'honneur. Elle faisait des dettes et ne payait pas ses créanciers. Elle avait été mêlée à des affaires honteuses d'escroquerie et même d'assassinat. Elle vivait d'expédients, jusqu'à ce qu'enfin, se trouvant sans crédit et sans ressources, elle fut réduite à s'engager dans la conjuration de Catilina. L'exemple de Sempronia de Claudia était très fâcheux. Il semblait donner raison aux gens des conséquences d'une éducation moins sévère et d'une conduite plus libre. Il est sûr qu'il n'avait pas tout à fait tort d'être alarmé. Les prescriptions dans l'opinion se tiennent toutes un peu. S'il en est beaucoup de futiles, il s'en trouve aussi de fort respectables. Et quand on s'habitue à négliger les unes, on est amené naturellement à moins tenir compte des autres. Le plaisir de la révolte, le plus vif et le plus sensible de tous les plaisirs, entraîne bientôt à se mettre en opposition avec toutes les maximes reçues. Et le public ne se trompe pas toujours quand il prétend que l'habitude de braver les plus indifférentes suppose qu'on a moins de respect pour les plus graves. Cependant, malgré les plaintes bruyantes d'honnêtes gens qui voyaient avec peine qu'on s'éloignât des mœurs antiques, la société romaine du 7e siècle paraissait très disposée à se relâcher beaucoup de la sévérité d'autrefois. Ce mouvement fut encore précipité par la catastrophe qui mit fin à la République. Dans cet intervalle de 20 années qui sépare Pharsale d'Axiome et qui fut un véritable interrègne, comme il n'y avait d'autorité que la force, que personne ne comptait sur le lendemain et qu'une bataille pouvait tout changer en un moment, on se contentait de vivre au jour le jour. Cette époque étrange ressemble assez au temps de notre Directoire. Au sortir des révolutions sanglantes, à la veille de bouleversements prévus, on ne songe guère à l'avenir, on a plus de soucis du passé, on s'habitue à ne plus respecter les traditions, et chacun se croit tout permis. On vit alors un personnage politique, le consulaire Plancus, s'adapter une queue de poisson, se peindre en bleu de mer et la tête couverte de roseaux, exécuter la danse du dieu marin Glaucus dans un dîner de Cléopâtre. Quand l'ordre fut rétabli, l'opinion était changée. Malgré le désir qu'affichait Auguste de faire revivre le passé, il n'était plus possible de revenir tout à fait aux anciennes maximes. À partir de ce moment, on ne songea plus à s'étonner de rien, voir les personnes du meilleur monde jouer de la cithare ou de la lyre, danser ou faire des vers. Horace, dans l'ode où il célèbre sous le nom de Licymnia, la femme charmante de Mécène, qui fut une des passions d'Auguste, n'hésite pas à la louer de bien chanter, puis il ajoute: il ne lui méfiait pas non plus de se mêler au cœur de danse, de prendre part au jeu folâtre et d'entrelacer ses bras et les jeunes filles dans les jours de fête. Le poète Stasso, qui n'était pas riche, comptait sur les talents de sa fille pour la marier. Pouvait-elle manquer de faire la conquête d'un époux, elle qui jouait si bien de la lyre, qui savait agiter ses bras blancs dans des mouvements cadencés et chanter les vers de son père d'une manière à rendre les muses jalouses. Pline nous apprend que sa femme Calpurnia prenait le plus grand soin de sa gloire littéraire. Elle lisait et relisait ses livres, elle les apprenait même par cœur. Elle mettait ses vers en musique et les chantait en s'accompagnant de la cithare. Aucun musicien, disait Pline d'un air ravi, ne lui a donné de leçons. Elle est l'élève de l'amour, la meilleure des maîtres. Ses talents, acquis ou naturels, n'étaient pas ceux que les vieux Romains vantaient chez leurs femmes. Si elles les avaient possédés, ils en auraient peut-être joui chez eux aux heures de retraite et de solitude, mais ils se seraient bien gardés d'en faire confidence au public. Butant de Pline, on n'avait plus ses scrupules. L'histoire nous montre que pendant tout l'Empire, les femmes ont été moins esclaves des anciens préjugés, plus libres, plus mêlées au monde et fort occupées d'y paraître avec avantage. Quelques esprits chagrins s'en affligeaient. Il y a une nuance de mécontentement et de regret dans cette réflexion de Tacite à propos de Livy. Elle était plus avenante qu'on ne l'eût permis à une femme d'autrefois. Sans doute cette avidité de plaire, cette recherche des agréments de l'esprit, cette facilité de mœurs, pouvaient présenter quelques dangers, mais il faut se souvenir, avant de les condamner, qu'elles avaient aussi des avantages. Il est possible, quoique cette opinion ait d'abord l'air d'un paradoxe, qu'elles aient servi à préserver ce qui restait à Rome de la vie de famille. N'oublions pas, quand nous jugeons la conduite des femmes sous l'Empire, qu'en cultivant des arts que l'opinion semblait jusqu'alors leur défendre, en devenant plus mondaines, en essayant d'être plus attrayantes, elles diminuaient la tentation que l'homme pouvait éprouver de placer en des lieux différents son affection et son estime, son devoir et son plaisir, et que c'est à ce prix peut-être que les Romains ont évité ce triste partage de la vie qu'on avait accepté si aisément chez les Grecs. Chapitre 2. Je n'ai rien dit de ce qui tient aujourd'hui tant de place dans l'éducation d'une femme, de la religion, et je n'en pouvais rien dire. Il n'en était pas dans les sociétés antiques comme dans la nôtre. Les Grecs et les Romains ne paraissent pas s'être souciés de donner aucune instruction religieuse à leurs filles. Du reste, les deux sexes étaient traités à ce sujet de la même façon. À dire vrai, la religion alors ne s'apprenait pas, et même elle ne pouvait pas s'apprendre. Les cultes anciens n'avaient point de dogme, ils ne donnaient lieu à aucun enseignement moral, ils ne possédaient point de livres religieux. Il se composait d'une série de pratiques que l'usage faisait connaître et de prières embarrassées qu'il n'était pas nécessaire de savoir par cœur, car un prêtre en récitait la formule et on n'avait qu'à la répéter phrase par phrase en ayant soin de n'y rien changer et sans se donner la peine d'y rien comprendre. Quant aux légendes merveilleuses qu'on racontait sur les dieux et qui leur faisaient une histoire poétique, on n'avait pas besoin de beaucoup étudier pour les connaître. On les apprenait sans y songer sur les genoux de sa mère ou de sa nourrice. Elle faisait le premier charme de l'enfance. À peine les yeux étaient-ils ouverts qu'ils s'arrêtaient sur des tableaux ou des statues qui en retraçaient les principales scènes. Les murs des temples, ceux des portiques publics ou des maisons particulières, en étaient couverts. On les retrouvait plus tard dans les chefs-d'œuvre des deux littératures. Les grands poètes avaient employé leur talent à les chanter et les avaient gravés dans les souvenirs en traits impérissables. Homère et Virgile, quand on les avait lus, ne pouvaient plus s'oublier. Ainsi l'on apprenait à connaître les dieux et leur histoire, en admirant les arts et en étudiant les lettres, mais on peut dire qu'il n'y avait pas alors, à proprement parler, d'enseignement religieux. Il n'en est pas moins vrai que la religion, quoiqu'on ne l'eût pas enseignée à la jeune fille, tenait une grande place dans la vie. À Rome, comme ailleurs, les femmes y étaient plus attachées que les hommes. Pour peu qu'un jeune homme appartînt à une famille aisée, on lui faisait étudier de bonne heure la philosophie grecque. Il prenait quelquefois dans cette étude des impressions contraires à la religion de son enfance. Le plus souvent, elle l'habituait à s'en passer en lui fournissant des solutions plus raisonnables sur la nature de l'homme et de Dieu. Dans tous les cas, il y trouvait un aliment pour l'activité de son esprit. La femme n'était pas sans doute exclue de la philosophie. Aucun sage n'avait prétendu que cette étude lui fût interdite. Sénèque pensait au contraire que les imperfections mêmes de sa nature lui faisaient un devoir de s'y livrer. Plus elle est emportée par tempérament, pleine de désirs déréglés et de passions violentes, plus elle doit demander à la raison un frein pour se contenir. Plutarque aussi prétendait qu'il est bon qu'elle lise Platon et Xénophon. Il voulait que son mari fût son maître, alors il faut, disait-il, qu'il orne lui-même son esprit de philosophie et que, semblable à l'abeille, il rapporte chez lui ce qu'il aura recueilli de meilleur. Il ne manquait pas, à Rome, au commencement de l'Empire et auparavant, de femmes qui n'étaient pas étrangères aux études philosophiques. L'ami de Cicéron, Coelia, voulait être la première à lire son traité du souverain bien. Et quand Livy eut perdu son fils Drusus, elle appela pour la consoler le sage Areus, qui était, dit Sénèque, le philosophe de son mari. Ce fut même comme une mode à cette époque, chez les femmes du monde, qui vivaient assez légèrement, de paraître avoir du goût pour ces graves études. Horace rapporte qu'on voyait souvent chez elle les livres des stoïciens sur des coussins de soie. C'est dans les mêmes mains, sans doute, qu'Épictète trouvait plus tard les traités de Platon, surtout sa République, où il se prononce pour l'abolition du mariage et la communauté des femmes. Mais ce n'était en somme que deux exceptions. La philosophie n'exerça guère une influence sérieuse que sur quelques femmes d'élite. Les autres l'ignoraient ou en faisaient peu d'usage. La religion leur tenait lieu de tout. Rien ne les en détachait, et c'est de ce côté que l'ardeur de leur esprit se tournait sans partage. Les Romains n'auraient guère compris une femme qui fût esprit fort et incrédule. Même quand ils ne croyaient pas beaucoup aux dieux pour leur compte, ils n'étaient pas fâchés qu'on y crût chez eux. Cicéron, qui se moquait si gaiement de toutes les fables de la mythologie, trouvait tout naturel que sa femme fût dévote et ne faisait rien pour la gagner à ses opinions. Les prières, les sacrifices, la célébration des anciens rites convenaient à une matrone qui se respectait. Il fallait qu'elle fréquentât les temples et qu'elle accomplît rigoureusement tous ses devoirs religieux. Nous venons de voir que Plaute a semblé tracer dans son Amphitryon le portrait idéal d'une Romaine. Parmi les qualités qu'il lui attribue, à côté de la réserve, de la gravité, du respect des parents, de l'obéissance au mari, il place la crainte des dieux. Quand cette crainte n'était pas mêlée de superstition, c'était le plus bel éloge qu'on pût faire d'une matrone, et on le disait dans son épitaphe. Ce qui fait qu'on est quelquefois surpris que les Romains aient éprouvé ces sentiments de piété sincère pour les dieux de leur pays, c'est qu'on suppose d'ordinaire que la religion les traitait alors aussi mal que la loi, et qu'elle n'avait pas plus de place dans le culte national que dans la société civile. Mais il n'en est rien. La constitution antique de la famille romaine ne fait pas de la religion domestique un privilège pour l'homme. La femme partage avec son mari le soin de prier les dieux et les enfants aident leurs parents. Le fils apporte les objets du sacrifice, la fille entretient le feu du foyer, qui est une image sacrée de la famille et qu'on ne doit jamais laisser éteindre. Dans l'État, qui n'est qu'une famille agrandie, les mêmes institutions se retrouvent. La plupart des prêtres, ceux surtout dont l'origine est la plus ancienne, sont assistés par leurs femmes dans leur ministère sacré. La Flaminica remplit des devoirs presque aussi délicats que le Flamen, son mari. Elle est soumise à des prescriptions aussi minutieuses. La jeune fille, dont le rôle était si important dans la religion de la famille, est remplacée dans celle de l'État par des vestales. Six patriciennes, choisies dans les plus grandes maisons de Rome, font vœu de se consacrer pendant 30 ans au service des dieux. Elles doivent rester chastes, sous peine de mort, pour être dignes d'entretenir le feu éternel dans le foyer public. La situation de la femme était donc à peu près égale à celle de l'homme dans ces vieilles cérémonies, et quoique l'homme se soit fait ensuite la meilleure part dans la religion comme partout, elles n'ont jamais cessé d'avoir accès aux fonctions sacerdotales, ce qui n'arrive plus aujourd'hui. il y avait sans doute des cultes dont elles étaient exclues. Elles n'entraient pas dans le temple d'Hercule, et les cérémonies de l'Ara Maxima leur étaient interdites. Mais elles possédaient aussi des cultes pour elles, auxquels les hommes ne devaient pas participer. Celui de la bonne déesse leur appartenait en propre. Plutarque dit qu'elles avaient dans leur maison de petits oratoires où elles adoraient leur divine protectrice. Tous les ans, les grandes dames de Rome se réunissaient chez le premier magistrat de la République pour y célébrer les mystères de Bona Dea. La présence de l'autre sexe était si rigoureusement défendue qu'on allait jusqu'à voiler les tableaux où quelque homme était représenté. On sait que l'année où César fut consul, le beau Clodius, amoureux de sa femme, eut l'effronterie de pénétrer sous un déguisement dans la maison consulaire et que malgré l'affaiblissement des anciennes croyances, ce scandale souleva l'indignation générale. C'était aussi des cultes réservés uniquement aux femmes que ceux de la pudeur patricienne et de la pudeur plébéienne. Dans un grand nombre d'autres, elles avaient des privilèges particuliers et occupaient la première place. Tel était celui de la Diane des Bois, Diana Nemorensis. Son temple, placé dans un site ravissant au pied du mont Albin, sur les bords d'un lac qu'on appelait le miroir de Diane, était le rendez-vous du plus beau monde. Tout autour s'étendait un bois sacré où les arbres, reliés entre eux par des bandelettes, portaient des tableaux qui indiquaient les vœux que la déesse avait écoutés et les miracles qu'elle avait faits. Il était d'usage, quand on avait été exaucé par elle, de se rendre à son temple le soir, une couronne sur la tête, un flambeau allumé dans la main. Les jours de fête, la forêt d'Aricie paraissait en flammes. C'était une des promenades favorites de toutes les dames de Rome, et l'on y rencontrait aussi bien ces belles affranchies qui ne cherchaient qu'une occasion de voir et d'être vues, que les matrones honnêtes qui venaient remercier la déesse du retour heureux d'un mari. Il faut donc reconnaître, contrairement à l'opinion commune, que les femmes n'avaient pas à se plaindre de la religion romaine et qu'elle ne leur faisait pas une condition inférieure à celle des hommes. Les inégalités dont elles étaient victimes venaient uniquement du droit civil. La religion ne les actionnait pas. Il semble même, à certains indices, qu'elle leur était contraire et qu'elle cherchait à les réparer. Elle avait fait des efforts sérieux pour rendre le mariage plus solennel. Avant de se marier, les deux fiancés faisaient un sacrifice ensemble. Car il n'est pas permis, disait Servius, de commencer la culture d'un champ ou de se marier sans prier d'abord les dieux. Le lendemain des noces, l'épouse devait sacrifier dans la maison de son mari. C'était une manière d'en prendre possession et de se faire agréer par les dieux de sa famille nouvelle. Cet appareil religieux dont le mariage était entouré en faisait un acte sacré. Il était naturel qu'étant accompli avec tant de solennité, il ne pût être légèrement rompu. Aussi la religion semblait-elle tendre à le rendre indissoluble. Dès les temps les plus anciens, elle regardait comme un sacrilège et, dit-on, faisait punir de mort le divorce non motivé. Le vrai mariage religieux, conferratio asio, celui qu'elle imposait à certains de ses prêtres, ne pouvait être rompu avec les plus grandes difficultés. Elle voyait avec déplaisir les secondes noces que devait plus tard condamner aussi quelques pères de l'Église. Dans beaucoup de cultes, on ne choisissait les prêtresses que parmi les femmes qui n'avaient été mariées qu'une fois. Elles étaient aussi les seules qui eussent le droit d'aller prier à l'autel de la pudeur et d'apporter des couronnes dans le temple de Fortuna Muliebris ou de la vieille déesse Mater Matuta. De là vint que l'opinion faisait un titre d'honneur aux femmes de n'avoir eu qu'un mari et qu'on les eût félicités si souvent dans leurs épitaphes. On peut donc dire que la religion romaine, en sanctifiant le mariage, en faisant quelques efforts pour l'empêcher de devenir un concubinage légal, cherchait à protéger la dignité de la femme. Elle y a un peu réussi, et la multiplicité des divorces au premier siècle de l'Empire prouve que dans cette tentative au moins, elle n'eut guère d'influence sur les mœurs publiques. Elle fut autrefois plus heureuse et rendit aux femmes des services qu'elles n'ont pas dû oublier. Presque tous les peuples antiques les condamnaient à une réclusion sévère et faisaient de leur demeure une prison. Ce préjugé était sans doute beaucoup moins fort à Rome qu'en Grèce, mais il y existait pourtant, et les anciennes inscriptions nous montrent qu'on leur faisait une gloire de garder la maison et de filer la quenouille. Mais pendant que l'opinion leur commandait d'y rester, la religion leur donnait des motifs légitimes pour en sortir. Il leur fallait bien, les jours de fête, se réunir à leurs compagnes pour prier ensemble les dieux. Les rituels le voulaient ainsi, et personne n'aurait osé s'y opposer. Ces réunions, qui les arrachaient un moment à la monotonie de la vie intérieure, étaient attendues avec impatience. Lucilius se laisse entendre qu'elles en profitaient pour se soustraire de temps en temps à la surveillance jalouse de leur mari. C'est à cause de ces réunions qu'on aimait tant le séjour des grandes villes, où les fêtes sont plus brillantes et reviennent plus souvent. Les femmes prirent bientôt l'habitude de n'y paraître qu'avec un train qui répondait à leur fortune. Polybe, parlant d'Emilia, sœur de Paul-Émile, qui avait épousé Scipion l'Africain, dit qu'elle étalait dans ses cérémonies un luxe conforme au rang d'une Romaine qui avait été associée à la vie et à l'opulence d'un Scipion, qu'elle s'y faisait accompagner par un grand nombre de serviteurs, et que, sans parler de la richesse qui éclatait dans sa toilette et dans ses voitures, on voyait des corbeilles, des vases et tous les objets nécessaires au sacrifice, en or et en argent, la précéder dans ses pompes solennelles. La religion fournissait donc une occasion aux femmes de sortir de leur demeure, de se faire voir en public, et dans l'appareil qui convenait le mieux à leur amour-propre. Elles en étaient trop heureuses pour ne pas lui en garder une grande reconnaissance. La religion les aida aussi à s'insinuer de quelque manière dans la vie publique, malgré les préjugés qui les en écartaient. Elles obtenaient les honneurs sacerdotaux, elles étaient prêtresses de Junon, de Vénus, de Cérès, et comme quelques-uns de ces cultes avaient une grande importance et une sorte de caractère officiel, qu'elles étaient chargées de prier pour tous les citoyens et portaient quelquefois le titre de sacerdos publica, on prenait l'habitude de ne pas les séparer des autres magistrats de la ville. Elles avaient part aussi au culte des Césars, qui était si étroitement lié à l'administration des provinces et des municipes, et devenait prêtresse des impératrices déifiées. Pour honorer Livie et Faustine, quand un décret du Sénat leur eût décerné l'apothéose, on faisait choix de l'épouse de quelque personnage important, qui lui-même était revêtu de fonctions civiles et qui, souvent, était prêtre d'Auguste et d'Antonin. Le mari et la femme avaient des attributions semblables. Nommés tous les deux de la même façon, par le suffrage des mêmes personnes, ils remerciaient leurs électeurs en leur faisant les mêmes présents. Les Flaminiqués élevaient des monuments et donnaient des jeux, et leur libéralité était payée de la part de leurs concitoyens par les mêmes hommages. Les femmes devaient donc à la religion ces honneurs qui satisfaisaient leur vanité et cette sorte d'importance dont elles étaient fières. Il était naturel qu'elles lui en fussent très reconnaissantes. La seule raison qu'on pourrait avoir de penser qu'elles ne tenaient guère aux dieux anciens, c'est qu'elles ont toujours été les premières à se précipiter vers les nouvelles divinités. Mais on a tort de regarder cet empressement pour les cultes étrangers comme une sorte de protestation contre le culte national. Il faut y voir plutôt une conséquence naturelle des sentiments religieux que ce vieux culte avait développé dans leur cœur. Ce n'est pas en haine des dieux de leur pays qu'elles faisaient un si bon accueil à ceux des pays voisins. C'était au contraire la piété qu'elles éprouvaient pour les divinités de Rome qui les disposait à bien recevoir celles de tous les peuples. Une dévotion les menait à l'autre, et elle les accommodait toutes ensemble. Quand l'ardeur de leurs sentiments pieux ne trouvait plus à se satisfaire dans leur antique religion, elles cherchaient à se contenter ailleurs. Mais ces pratiques nouvelles n'étaient qu'une sorte de complément et de surcroît. Elles n'effaçaient pas le respect que l'on gardait toujours pour les anciennes. Au sortir des temples d'Isis ou de Cybèle, les femmes n'oubliaient pas d'aller prier Junon et Minerve au Capitole ou Diane sur l'Aventin. Ce mélange qu'elles se permettaient sans scrupule dura jusqu'au jour où la même piété qui les avait conduites dans les sanctuaires des dieux de l'Égypte et de la Syrie les jeta au pied des autels du Christ. Cette fois, elles eurent affaire à une religion jalouse, qui ne souffrait pas de partage, et il leur fallut se décider entre leur nouveau culte ou celui de leur famille et de leur jeunesse. Si elles n'hésitèrent pas dans leur choix, ce n'est pas, ou comme on l'a prétendu, parce que leur ancienne religion ne s'occupait pas assez d'elles et ne leur faisait pas une place qui leur suffit. Leur préférence tenait à d'autres causes qui leur font plus d'honneur et qu'il est inutile d'énumérer ici.